Vous êtes sur Divergence FM, je suis en compagnie de Yann Castagnier, photographe de presse et auteur de documentaires photo. Il va répondre à mes questions sur son travail pendant encore une dizaine de minutes. Alors Yann Castagnier, nous parlions à l'instant de votre photoreportage sur la maison d'enfants à caractère social à Domont. Ce qui est spécial avec ce photoreportage-là, c'est que vous utilisez l'IA. Pourquoi ce choix d'utiliser l'IA ?
Ouais, alors j'utilise l'IA sur 8 photographies sur un corpus de 60. Ouais. Donc c'est quand même assez limité, mais le but c'était qu'il y a certains enfants qu'on ne pouvait pas prendre en photo, soit parce que les parents n'avaient pas donné d'autorisation de diffusion, soit parce que certains, on ne doit pas savoir où ils sont protégés pour pas que les parents viennent les chercher.
Ouais.
Et en fait, moi j'étais extrêmement frustré par les techniques de pixelisation ou de mettre un bandeau noir, parce que ça coupe toutes les émotions, quoi. Et avec l'IA, j'avais vu les faux trucs sur le pape, etc. Et je me suis dit, mais on peut remplacer le visage des enfants, garder les émotions, et en fait, garder leur vraie histoire comme on le fait dans les papiers écrits, comme on change le nom, en fait, l'identité, mais on garde l'histoire. Et j'ai voulu faire la même chose en photographie, alors en spécifiant bien que c'était utilisé avec l'IA, quoi. Et puis en réduisant le nombre d'images où c'était fait. Et voilà, donc j'ai utilisé ce procédé pour ça. Ça a fait beaucoup de débats. J'ai fait un débat justement avec Libération, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont très rétifs à ce procédé-là. Voilà, je pense que le problème, ce n'est pas le procédé que j'ai utilisé moi, c'est en fait la porte que ça ouvre derrière et ce que d'autres pourraient en faire.
Oui, ouais.
Donc voilà. Mais bon, j'ai pris cette décision sur ce sujet-là spécifiquement. Je ne sais pas si je le referais sur un autre sujet. Là, c'était quand même très, très, très spécifique.
Voilà, c'était pour garder le regard, les émotions sur le visage.
Oui, c'est ça, parce que on perd vraiment tout avec la pixelisation. Ouais. Enfin, c'est terrible. Donc, autant profiter d'autres possibilités ou les essayer.
Vous avez également suivi pendant un an 6 pensionnaires de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris, où on en a parlé tout à l'heure. Il en ressort un photoreportage assez saisissant, qui peut être décrit comme visant un peu la déstigmatisation des maladies mentales. Comment on aborde un public dans un hôpital psychiatrique d'abord, et surtout, comment on montre la maladie mentale en photo sans la stigmatiser ou l'exagérer ?
Oui, alors ça, c'était tout le grand défi que je me suis lancé au début du reportage. C'est-à-dire, je voulais... Alors, comment on entre en contact, déjà ? C'est le temps long aussi, c'est en venant, revenant, etc. On voit des gens, certains qui sont là pour des temps longs, en fait, certains pour plusieurs mois. Donc, ça permet de créer un lien. Il y a des gens qui sont là sur des temps courts, 8-10 jours. Il faut savoir que la moyenne d'hospitalisation, contrairement au cliché, à l'hôpital Sainte-Anne, c'est 19 jours.
Ouais.
Et moi, j'avais un peu des piliers, on va dire, qui tenaient la boutique parce qu'ils étaient là depuis longtemps. Et en fait, c'est par eux que j'arrivais à faire plein de photos aussi à côté parce que comme eux avaient confiance en moi...
Le lien s'est fait.
Le lien s'est fait.
Plus facilement.
Et j'étais un peu validé par eux, y compris auprès des autres qui étaient là juste pour pas longtemps. Donc comment on entre en contact, voilà, c'est cet avantage du temps long. Comment est-ce qu'on ne stigmatise pas ces personnes et même comment est-ce qu'on les déstigmatise ? Moi, je voulais éviter deux choses absolument. Un, c'était une espèce de noir et blanc très misérabiliste parce que... comme Depardon l'avait fait en fait par exemple à Saint-Clémenté dans les années 80, c'était utile, mais ça avait tendance à très animaliser, à mettre à distance, etc. Donc ça, je voulais l'éviter, et après aussi je voulais, dans la mesure du possible, éviter l'anonymat, encore une fois, pour donner un visage à ces personnes et que ce soit deux regards, celui-là qui regarde et celui-là qui est regardé, qui se rencontrent et qui est vraiment une rencontre humaine entre les deux, et qu'on se rende compte en fait que y a des gens qui vivent une maladie. Et voilà. Et ensuite, le processus de déstigmatisation, c'était aussi de photographier les gens à l'hôpital quand ils arrivent en crise, et ensuite de les suivre jusqu'à leur retour à domicile, départ en foyer ou en clinique, et de montrer que l'étape de l'hôpital était qu'une étape, en fait.
Dans tout un processus de guérison.
Exactement. Ouais. Et que c'est comme quelqu'un qui a un accident de la route, il est quelque temps à l'hôpital, après il ressort, quoi. Mmh. Alors qu'on a dans l'image l'idée qu'on reste tout le temps à l'hôpital psychiatrique, ce qui est faux.
Vous montrez beaucoup de sujets de photos que le grand public ne voit pas, voire ne veut peut-être pas voir. Donc je pense aux SDF de Sète et de Montpellier, par exemple. Donc là, on vient d'en parler, les enfants d'un hôpital psychiatrique, les enfants placés. C'est un engagement personnel, ça, de montrer ces publics-là qu'on ne veut pas voir.
Ouais, tout à fait. Alors en fait, c'est parce que je m'intéresse aux marges de la société, parce que je considère que s'intéresser à ces limites-là, ça en dit beaucoup sur la part d'humanité qu'une société va avoir, quoi. Et donc mon intérêt vient de là, puis c'est aussi l'intérêt de faire attention aux plus fragiles en fait, et de se dire qu'il faut qu'on soit là, qu'on a créé des sociétés aussi avec cet esprit de solidarité pour pouvoir subvenir aux besoins de ceux qui ne peuvent pas. Et voilà, et puis les marges, j'aime bien ça, la marge dans un livre, c'est le truc qu'on souligne qui nous paraît important, quoi. Mmh. Et s'intéresser aux marges, c'est un petit peu ça aussi, c'est écrire dans la marge quelque chose, une histoire, et qui met en avant véritablement une histoire, voilà.
Ouais. Ce qu'on ne veut pas voir, mais qu'on voit beaucoup, c'est malheureusement l'extrême droite. Et vous en avez suivi plusieurs groupes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ?
Ouais, alors voilà, j'ai fait. En réalité, c'est presque mon plus gros sujet à côté de ceux de mes grands-parents. C'est-à-dire, j'ai fait des enquêtes pendant 8 à 10 ans sur les groupuscules d'extrême droite. Donc, j'ai démarré par 6 mois, en fait, en immersion. Alors, pas en infiltration, ils savaient qui j'étais, mais vraiment immergé dans ce milieu-là avec l'Action française. Un an avec Génération identitaire. Et après, des reportages au coup sur coup sur le GUD. Voilà. Et après, l'IB m'a donné le Rassemblement national à suivre pendant quelques temps sur les élections. Donc j'ai suivi tout ça en fait pendant des années parce que j'ai vu qu'au fur et à mesure les idées des groupuscules se transféraient dans le débat national et qu'il y avait cette idée qu'ils ont repris de Gramsci en fait qui est de gagner les idées par les idées avant de gagner les élections et c'est ce qu'on appelle la bataille culturelle. Mmh. Et par exemple le grand remplacement théorisé entre guillemets par Renaud Camus est arrivé au final à passer dans le débat public et c'est ça qui m'intéressait, c'était ce transfert là. D'où le fait d'être très proche de l'extrême droite en termes de reportage, quoi.
Ouais. Et vous avez été menacé par l'extrême droite, on en parlait tout à l'heure.
Ouais, alors j'ai eu des menaces. En fait, comme je les connaissais bien, par exemple, pendant les Gilets jaunes, on m'a demandé au début d'aller dans les manifestations pour pouvoir les repérer. Donc là, j'ai eu des menaces de mort sur le téléphone. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que sur une manif du GUD, tout le monde me connaît dans les groupuscules d'extrême droite, ils m'ont désigné. Et véritablement, ils sont allés voir les policiers, ils ont dit « Nous, si nos militants s'en prennent à lui, on n'est pas en mesure d'assurer sa sécurité. » Donc voilà. Et puis, j'ai eu beaucoup de pression, des insultes, puis ils ont essayé de m'entourer. Les policiers m'ont exfiltré de la manif. Mm-hmm. Et après, ils m'ont affiché sur Twitter, ce qui veut dire « Si vous le croisez dans la rue, allez-y, faites-vous plaisir, tabassez-le. » Donc voilà. Donc pendant quelques temps, je n'ai pas pu dormir chez moi au cas où est-ce qu'ils avaient repéré où j'habitais. Voilà. Et donc c'était compliqué, mais ça fait partie des choses qu'on vit aussi entre journalistes qui travaillent sur l'extrême droite, qu'on partage, et puis voilà, enfin, bon, c'est un engagement, quoi, très concrètement. Mmh. Hein.
Donc, Et justement, est-ce que vous faites un lien entre votre profession donc, de photojournaliste et ce que vous faites à côté, les documentaires photos ?
Oui, alors il y a un lien, mais j'ai envie de dire deux facettes du même métier, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi, je parle le fait d'être photographe, parce que d'un côté, il y a photojournaliste, très news, comme ce que j'ai pu faire avec le suivi des Gilets jaunes, la Coupe du Monde, de foot, etc. Et il y a l'autre côté documentaire, en fait, qui est sur le temps long.
Temps plus long,
ouais. Ouais, alors bon, pour moi, le documentaire fait partie du photojournalisme, mais quand même, on fait la différence entre ces sujets longs et ces sujets courts. Et le lien, par exemple, est fait quand je travaille sur du long, sur l'extrême droite, et qu'après, on m'envoie en news pour les suivre ou les repérer sur des actualités.
Ouais, vous développez une expertise.
Ouais, exactement. Et en fait, on m'appelle pour ça. On m'appelle presque trop pour ça, parce que parfois, j'ai envie de faire d'autres choses. Ouais. Même, j'ai vraiment envie de faire d'autres choses. Mais voilà, après, une fois qu'on est un peu spécialisé sur un sujet, on vous prend pour ce sujet, quoi. Alors que bon, moi, j'irais bien couvrir la gauche pour pouvoir être tranquille d'esprit aussi un petit peu. Mais on verra au fur et à mesure.
On espère pour vous, alors. Merci, Yann Castagnier, d'avoir pris de votre temps pour venir répondre à mes questions. Je rappelle à nos éditeuristes que votre travail est consultable sur votre site yanncastagnier.com et vos livres sont disponibles l'un aux éditions Révélateurs et l'autre sur Mediapart et sur votre site. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet échange en podcast sur le site de Divergence FM. Merci à tous.
Merci beaucoup.